ceux qui m'écoutent sur Internet, je vous rappelle que j'ai changé les jours des conférences. Donc, le mercredi soir, il y a maintenant la conférence sur l'exégèse des évangiles à partir des Pères de l'Église. Et le vendredi soir, la conférence sur l'explication de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je rappelle aussi que les dates des retraites sont inscrites sur la page d'accueil du site, sur le site d'Anne Marie. En du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans la collecte du jour, ce 19e dimanche après la Pentecôte, il y a des points qui résument parfaitement ce que je voudrais vous expliquer pendant ce sermon. Il nous est dit, notre Seigneur nous dit que, je prends le texte exact pour que je ne vous dise pas de bêtises, nous sommes dégagés, si nous sommes dégagés du corps et de l'âme, demandons à Dieu qu'il nous rende un cœur libre, qu'il nous donne un cœur libre, libre de toute contrainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon Dieu nous a donné un corps et une âme. Et ce corps et cette âme, on peut aller vers le haut, le Dieu, on peut rester englué sur la terre d'ici-bas, comme un serpent qui ne veut pas lever la tête. Et donc, si nous acceptons de nous couper de ce qui nous maintient ici-bas sur la terre, à ce moment-là, notre intelligence et notre âme vont pouvoir s'élever vers le bon Dieu, garder le bon Dieu et comprendre tout ce que le bon Dieu a préparé pour nous. Et si nous faisons ça, à ce moment-là, nous trouverons la véritable liberté. Non pas la liberté de faire ce que nous voulons, parce que ça, ce n'est pas la liberté, c'est la licence. Mais la liberté qui nous permet de choisir à ce moment-là, librement, sans contrainte, qui nous permet de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin pour laquelle nous avons été créés, à savoir le bon Dieu. Et si on se pose la question de savoir qu'est-ce qui nous maintient, en quelque sorte, englués sur cette terre d'ici-bas, qui nous empêche d'élever notre âme et notre intelligence vers le bon Dieu, eh bien c'est tout simplement être concupiscence. Donc si j'arrive, avec la grâce du bon Dieu, à dominer ces trois concupiscences, on ne peut pas les éliminer complètement, c'est impossible. Si j'arrive à réfréner ces trois concupiscences, à les dominer, ces trois concupiscences, concupiscence des yeux par l'esprit de pauvreté, la concupiscence de la chair par l'esprit de chasteté, et la concupiscence de l'orgueil par la vie de prière, par l'humilité, par l'obéissance, à ce moment-là, je pourrai m'élever vers le bon Dieu. Donc, quels sont les gens libres? Où rencontrons-nous ici-bas, sur la terre, les gens qui sont vraiment libres? Sont vraiment libres les gens qui sont capables d'être maîtres de leurs passions. Si on est maître de nos passions, on sera maître de nos concupiscences, et à ce moment-là, on peut trouver la véritable liberté, c'est le vers du bon Dieu. Au contraire, les gens du monde, qui laissent leurs passions tourner à 100 l'heure dans n'importe quelle direction, dans leur âme et dans leur volonté, sont devenus en fait des esclaves. Ils pensent qu'ils sont libres. Ils pensent que nous sommes esclaves. C'est l'inverse, en fait. Donc quelqu'un qui est parfaitement libre, c'est quelqu'un qui, par exemple, dans un monastère, un moine qui est protégé par son vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et bien cette personne est vraiment libre. Et à ce moment-là, on peut répondre à l'appel du bon Dieu. C'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la parabole d'aujourd'hui que la Sainte Église a choisie pour ce 19e dimanche après la Pentecôte. Cette parabole est essentielle. Cette parabole, c'est une allégorie qui explique toute l'histoire du monde. Un roi fête l'anniversaire, le mariage de son fils. Il a invité toute une série de personnes à venir à cette fête d'anniversaire, cette fête de mariage. Et donc, quand tout est prêt pour le banquet, eh bien, il envoie les serviteurs chercher les invités. Les invités refusent de venir, ils trouvent tous une excuse. Ils vont trouver des excuses, ils ne vont pas venir. Alors, le roi envoie de nouveau des serviteurs en disant, mais venez, tout est prêt, vous êtes invités, venez. Et non seulement ils refusent de venir, mais ils vont mépriser les envoyés et vont même les tuer. Alors, qu'est-ce que fait le roi? Il va dire à ses serviteurs, ceux qui étaient invités n'étaient pas dignes. Alors on va chercher d'autres, parce que je veux que la salle de mon festin soit remplie. Donc partez, allez chercher les gens. Pas ceux qui étaient invités au début, ils ne sont pas dignes. Allez chercher d'autres personnes. Allez dans les chemins, allez partout dans les carrefours. Prenez tous les gens. Et amenez-les à mon festin pour que la salle de mon festin soit remplie. Alors comment expliquer cette parabole? Il suffit d'aller, encore une fois, chercher ceux qui ont la clé d'explication des évangiles, des pères de l'Église. Et ils expliquent tous de la même façon. Il dit, ce roi qui invite au mariage de son fils, c'est Dieu le Père. Le Fils, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et quel est ce mariage? Bien, ce mariage, c'est le mariage entre l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui tout en restant Dieu, il est deuxième personne de la Sainte Trinité, il est parfaitement Dieu, va devenir homme, en prenant dans le sein très pur de la très Sainte Vierge Marie, le jour de l'incarnation, le 25 mars, il y a 2000 ans, en prenant une humanité, comme la vôtre, comme la mienne. Et en unissant parfaitement en sa personne, deuxième personne de la Sainte Trinité, unissant parfaitement l'humanité et la divinité. Il est vraiment homme, il est vraiment Dieu. Et dans la mesure où nous reconnaissons cette union des deux natures dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous pouvons venir à la fête du festin, à la fête du mariage. Donc ce mariage représente le mystère de l'incarnation. Et quels étaient ceux qui étaient invités? Tous les pères d'Église répondent également de la même façon. Ceux qui étaient invités, c'est ceux qui avaient été préparés depuis très longtemps. Depuis longtemps déjà, le roi avait envoyé des serviteurs pour annoncer ce mariage. Il avait dit, attention, telle date, il y aura ce mariage. Il avait annoncé ça par les grands législateurs, par exemple Moïse. Et après, il a envoyé les différents prophètes pour appeler tous ceux qui étaient invités, c'est-à-dire le peuple juif de l'Ancien Testament, les appeler à ce mariage. Et lorsque le mariage arrive, lorsque les temps sont accomplis, que notre Seigneur Jésus-Christ unit en sa personne sa divinité avec notre humanité, par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie, qui va lui donner cette humanité, eh bien, tout le monde est appelé et refuse de venir. Et enfin, non seulement ils refusent de venir, mais ils vont même tuer celui-là même qui avait été envoyé par Dieu pour nous racheter. Il tue notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que Dieu le Père va dire, bon, mais j'ai perdu mon temps à demander à mon fils de se sacrifier sur la croix pour sauver tous les hommes, puisque les hommes ne veulent pas de lui? Eh bien, il renvoie ses serviteurs. Voici sont les apôtres qui partent à la conquête du monde. Et les apôtres vont ramener, à ce moment-là, dans la salle du festin, c'est-à-dire dans son église, ils vont ramener ceux qui vont se substituer justement au peuple juif de l'Ancien Testament, à savoir les catholiques. Et les catholiques vont venir remplir la salle du festin et vont pouvoir rester et festoyer justement cette salle du festin, c'est-à-dire l'Église catholique qui représente aussi le paradis, à condition d'être digne. La dignité est expliquée dans la deuxième partie de ce magnifique évangile. Il faut avoir le vêtement de noces. Le roi, le chef du festin, le roi, donc, va venir, une fois que sa salle est remplie, il vient pour saluer les invités. Et il remarque, dit l'évangile, un homme qui était là, qui n'avait pas l'habit nuptial sur ses épaules. Et comme il n'a pas l'habit nuptial sur les épaules, il lui demande, mais pourquoi êtes-vous sans l'habit nuptial? Et puisque l'homme ne répond pas, il est quoi? Il reste en silence, il ne peut pas répondre à cette question. Eh bien, il est rejeté de la salle du festin, nous dit l'évangile, et jeté dans les lieux des pleurs et des grincements de dents. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien là, c'est une deuxième allusion, non plus cette fois-ci au mystère de l'incarnation, l'union de l'humanité et la divinité entre Seigneur Jésus-Christ. C'est une deuxième invitation, cette fois-ci au mystère de la Sainte Eucharistie. Ce banquet représente la Sainte Messe. À cette messe, renouvellement non sanglant, le sacrifice du calvaire, et nous sommes appelés à participer à cette sainte messe par la Sainte Eucharistie en communion, à condition que nous ayons sur les épaules l'habit nuptial. C'est une habit nuptial, c'est quoi? La condition sine qua non pour pouvoir communier, à savoir la vertu de charité. Donc, la vertu de charité est comme un habit qui va couvrir notre corps, couvrir notre âme, un habit de lumière tout brillant qui va nous rendre dignes de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, va lui-même nous habiller de sa, en quelque sorte, de sa lumière divine pour que nous puissions recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Et pourquoi celui qui se présente à la Sainte Table est envoyé au lieu des pleurs et des grincements de dents, dit l'Évangile? Parce que tout simplement, celui qui n'est pas digne de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, qui ose se présenter à la Sainte Table en état de péché mortel, eh bien sera rejeté. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile du jour, fait allusion au plus grave peut-être de tous les péchés, péchés de sacrilège. Il y a la profanation du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur. J'ai vais commis un état de péché mortel en toute connaissance de cause. C'est comme si je trouvais la plaie de la clé du tabernacle, ouvrir le tabernacle, prendre les hosties consacrées, aller les jeter dans une mare de boue, les piétiner. C'est ce qu'on fait. Et c'est pour cela que ceux qui sont coupables d'un crime pareil, à savoir le crime de sacrilège, par une mauvaise confession, une mauvaise communion, eh bien, seront envoyés au lieu des pleurs et des grincements de dents. C'est un rappel très net. Au lieu de châtiment pour ceux qui ne veulent pas se convertir et qui, après leur mort, meurent en état de péché mortel, c'est l'enfer. Les pleurs et le grincement de dents représentent la peine du dent et la peine d'essence. La peine d'essence, le feu de l'enfer, la peine du dent, le fait qu'ils ne verront jamais Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans son évangile, finit par une phrase qui résume tout. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. Là encore une fois, tous les pères de l'Église dans leur ensemble expliquent de la même façon. Ils expliquent que le nombre des élus, le nombre de ceux qui seront au ciel, un jour est très très grand, mais que malheureusement le nombre de ceux qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ, qui seront envoyés dans ce lieu des pleurs et des grincements de dents, est plus grand. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Rappelez-vous cette phrase. Notre Seigneur Jésus-Christ, large est la voie qui la porte, qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui la prennent. Et au contraire, étroite et resserrée la porte qui mène à la vie éternelle, et combien peu sont ceux qui la prennent. On voit très bien comment cette parabole résume toute l'histoire du monde. L'histoire du monde, c'est ça, tous les hommes, pas simplement les Juifs de l'Ancien Testament, mais tous les hommes d'aujourd'hui sont tous appelés à la salle du festin. Et le bon Dieu a envoyé des missionnaires dans le monde entier. Ils sont allés dans le monde entier pour appeler les âmes. Venez, venez au festin préparé par notre Seigneur Jésus-Christ. Venez, venez prendre les eaux du baptême pour devenir enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, avoir accès à ce festin extraordinaire pour nourrir votre âme, avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais hélas, aujourd'hui, la plupart des gens refusent ce festin, refusent cette invitation. Ils trouvent bien plus intelligent pour eux, bien plus pratique pour eux de rester dans la boue du monde moderne pour en faire qu'à leur tête à longueur de journée. Alors posons-nous cette question, puisque j'ai été invité, les catholiques sont invités de façon très spéciale, les autres aussi sont invités. Ceux qui ne sont pas baptisés aussi sont invités, mais ils doivent passer par le baptême, évidemment, pour pouvoir justement acquérir ce droit d'utiliser la Sainte Eucharistie et nourrir leur âme. Puisque nous sommes invités, quelle réponse allons-nous donner? Est-ce que nous allons donner la réponse des Juifs de l'Ancien Testament qui, j'ai pas le temps, a d'autres choses à faire bien plus importantes que ça, et qui refusent les serviteurs, qui tuent les serviteurs envoyés par le roi? Ou est-ce qu'au contraire, allons-nous, à la suite de tous les catholiques du monde entier, pendant des siècles et des siècles de christianisme qui sont avancés vers la salle du festin et qui ont reçu à ce moment-là par le vêtement nuptial que leur a donné notre Seigneur Jésus-Christ, qui vont recevoir justement ce droit de participer au banquet céleste. Et n'oublions pas, encore une fois, que ceux qui ont pu se reçu doivent être les premiers à venir. C'est évident que le bon Dieu ne va pas juger de la même façon un catholique qui a beaucoup reçu qu'un catholique qui n'a rien reçu, ou quelqu'un qui n'a même pas reçu de baptême. Alors, posons-nous la question, comment ai-je répondu jusqu'à présent? Comment dois-je répondre à présent, maintenant que je connais plus de choses? Comment dois-je répondre pour être justement digne et avoir sur moi ce vêtement nuptial qui me donne accès à la Sainte Eucharistie, qui me donne accès au paradis? N'oublions pas que ce mariage ne représente pas simplement l'union, l'incarnation, ne représente pas simplement la Sainte Messe et la Sainte Eucharistie, mais représente aussi le ciel. Donc on voit les trois niveaux. Premier niveau, l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième niveau, l'institution de la Sainte Eucharistie. Après l'incarnation de la Sainte Eucharistie, mais le troisième niveau, c'est le ciel. Nous sommes créés pour le ciel. Nous sommes des êtres d'éternité. Vous et moi, nous sommes appelés au ciel où le bon Dieu nous a préparé une place. Alors, il faut avoir le vêtement nuptial sur nous. Donc vérifions bien que tous les matins, nous levant, tous les soirs, en nous couchant, est-ce que j'ai le vêtement nuptial sur moi? Est-ce que mon âme est protégée par cette armure extraordinaire qu'est l'état de grâce? Et puis il faut bien examiner ce vêtement, si on découvre qu'il est tout taché par les poussières de la journée, les poussières morales de la journée, eh bien allons laver justement au plus tôt ce vêtement nuptial pour qu'il soit toujours resplendissant. C'est le rôle de la confession. Vous voyez comment ce magnifique évangile résume absolument toute l'histoire du monde. L'histoire du monde, c'est ça. Un roi qui invite toutes ses créatures à venir participer à sa gloire. Un roi qui demande à des manants que nous sommes de venir participer à sa gloire extraordinaire au paradis. Et nous, membres de cette humanité, nous avons la possibilité de répondre à cet appel. Hélas, nous avons la possibilité aussi de refuser cet appel. Rappelez-vous que le bon Dieu veut que nous répondions à l'appel de façon libre et sans contrainte. Je vous expliquais au début de ce sermon. Est-ce que je veux répondre librement et sans contrainte à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, ou est-ce qu'au contraire, je veux faire partie de ceux qui refusent justement cet appel, qui refusent de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'évidemment, quand on suit notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il va falloir pratiquer l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, être maître de ses passions. Qu'ai-je décidé? Alors, si nous avons du mal à prendre le bon chemin, regardons vers la croix. Puisque derrière la Sainte Messe, c'est la croix. La Messe, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix. Donc regardons cette croix, regardons notre Seigneur Jésus-Christ, exemple sur la croix, qui non seulement a accepté d'avoir ses mains, ses pieds percés, mais son cœur lui-même ouvert pour nous donner un lieu de refuge. Et au pied de la croix, notre Sainte Vierge Marie est là. Elle se tient debout au pied de la croix pour nous indiquer le chemin qui nous amène à son Fils. Alors si j'ai un petit peu peur de me présenter directement au pied de la croix pour parler au Fils, passons par la mère. Le rôle de notre Sainte Vierge Marie, je vous l'ai expliqué des milliers de fois, le rôle de notre Sainte Vierge Marie, il est là, elle est l'intermédiaire, elle est le pont qui nous unit à son divin Fils. Passons par elle justement pour qu'elle nous aide, elle est là pour cela, elle nous aide à aller vers son Fils. Et qu'est-ce que va faire la Sainte Vierge lorsque quelqu'un se présente? Quand on se peut vérifier que l'habit nuptial est sur les épaules. Elle va vous dire, attention, là il y a une tache. Il faut d'abord nettoyer la tache. On ne va pas se présenter à mon divin Fils, qui est mort pour vous sur la croix, avec un vêtement tout taché. Passez par la case confession. Passez par le tribunal de la pénitence. Votre tache va être éliminée. Votre vêtement va devenir un vêtement tout brillant de la grâce, de la lumière divine. Et à ce moment-là, vous pouvez présenter notre Seigneur. Donc passons par la Sainte Vierge Marie, demandons-lui, voilà, est-ce que je suis suffisamment propre pour accéder à votre Fils? Et notre Sainte Vierge Marie, qui connaît très bien son Fils, puisqu'elle est sa mère, Notre-Dame, notre Sainte Vierge Marie, notre Mère du Ciel, va nous aider justement à ce que nous aussi, avec la grâce du bon Dieu, nous soyons dignes de nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'un jour nous puissions tous être au paradis pour le louer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.